Chapitre 6. La solution crevait les yeux. Henry James mourait de curiosité. Il avait perçu une gêne en retournant sur la plateforme du monument de Clover, mais ni Sherlock Holmes ni Henry Adams ne voulurent lui en donner la raison, ni même admettre qu'il s'était passé quelque chose. Holmes et Adams gardèrent le silence pendant tout le trajet du retour, et Adams ne desserra les lèvres que pour leur dire « Au revoir, mes amis » quand la voiture s'arrêta pour les déposer à la pension de Madame Stevens. Holmes ne répondit pas non plus à ses questions après avoir franchi le seuil de leur logis. Ayant demandé au détective s'il allait vouloir sortir dîner avec lui, James se vit seulement répondre « Non merci, mais je ne pense pas que je dînerai ce soir », sur quoi il s'enferma dans sa chambre. James passa le reste de l'après-midi et le début de la soirée installé sur sa banquette de fenêtre à fumer, un roman ouvert devant lui mais qu'il n'arrivait pas à lire, occupé qu'il était à guetter la grille et les quelques mètres qui la séparaient de la porte d'entrée. Il vit Holmes sortir environ une heure avant la tombée du jour, un sac de voyage en toile à la main et portant un manteau à pèlerine bien trop épais et un chapeau assorti en tweed dont les caches-oreilles remontées étaient attachées sur le dessus de la tête par un ruban. James attrapa sa canne et son haut de forme et courut dehors pour suivre le détective. Malgré la tenue très correcte de Holmes, James se fit la réflexion que le sac lui donnait des airs de plombier ou d'artisan rentrant de sa journée de travail. Au cas où Holmes le repérerait, ce qui ne manquerait pas d'arriver, James était prêt à prétendre qu'il s'agissait d'une pure coïncidence et que lui aussi était sorti prendre l'air. Mais Holmes ne se retourna pas et ne sembla pas remarquer que James le filait sur le trottoir d'en face, gardant une centaine de mètres d'écart entre eux. Holmes parcourut environ 500 mètres, puis entra dans un bureau télégraphique. James se dissimula pour l'attendre dans l'ombre d'un magasin de vêtements pour hommes fermé à 7 heures et s'absorba dans la contemplation des cravates exposées en vitrine tout en profitant de l'effet miroir pour guetter Holmes. Ce dernier ressortit au bout de quelques minutes. Le détective repartit d'un pas rapide en sifflotant, la canne sous le bras, et il ne lui fallut que quelques minutes pour arriver au croisement de la 12e rue Nord-Ouest et de Pennsylvania Avenue. Il s'arrêta pour traverser devant le vieil hôtel Kirkwood House, promis sous peu à la démolition. James attendit pour traverser Pennsylvania Avenue et ne vit plus Holmes en atteignant l'autre trottoir. Il continua de marcher dans la même direction, mais plus lentement, se demandant si Holmes était entré dans un des immeubles de bureaux qui longeaient la rue. Les ombres s'allongeaient et le soleil était sur le point de se coucher, quand, en parvenant au niveau d'une ruelle transversale, James vit Holmes surgir devant lui en lui bloquant le passage, sa canne épée à moitié tirée. Il y eut un éclat lumineux de métal, mais une seconde seulement, car le détective renfonça aussitôt la lame dans son fourreau et referma le mécanisme du pommeau d'argent.
« James !» s'exclama Holmes avec un rire. « Je me disais bien qu'il était un peu tôt pour que Lucan Adler fasse des siennes. »
James tombait des nues. Holmes s'attendait-il donc à ce que le tueur des anarchistes le suive? Était-ce aussi pour cette raison qu'il avait accepté d'assister au dîner chez les Hay la veille? Avait-il voulu diffuser la nouvelle que Sherlock Holmes était à Washington et que ses ennemis pouvaient s'attaquer à lui? Holmes fit quelques pas sur l'avenue et siffla en faisant signe au premier cocher de fiacre de la rangée de cabs arrêté le long du trottoir de l'hôtel. Une fois qu'ils furent montés en voiture, Holmes indiqua au cocher de continuer vers l'ouest, puis de prendre la 2e rue à droite. « Où allons-nous ? » demanda James. Vu la direction, il ne rentrait sûrement pas chez Madame Stevens.
« Je dois réfléchir, et en général, les promenades en voiture stimulent mes capacités logiques, » répondit Holmes.
« Pas vous, Monsieur James ?» Henry James répondit par un vague murmure. Il ne se souvenait pas d'avoir jamais réfléchi de manière particulièrement fructueuse dans les cabs. En train, certainement, s'il voyageait seul, et surtout, toujours, dans son bain ou lors de ses promenades matinales, mais pas en voiture. James ne prêta pas attention au trajet, écoutant à peine les indications données par Holmes.
« À droite, ici. À gauche, cocher. Tout droit, jusqu'à nouvel ordre.
Avez-vous quelques nouveaux sujets de méditation qui méritent ce redoublement de réflexion ?» s'enquit James. « Voulez-vous soumettre à notre sagacité conjuguée une question inédite ?»
Il savait prendre un risque en posant la question aussi directement, il s'exposait à se faire rabrouer, même humilier. Mais la curiosité le tenaillait depuis qu'il avait interrompu une conversation à l'évidence importante entre Adams et Holmes au monument de Saint-Gaudens.
« Oui, on m'a donné du grain à moudre, » admit Holmes,
« mais mes découvertes pourraient impliquer Adams et vos autres amis de Washington. Alors, Réfléchissez bien et dites-moi si vous êtes prêt à tout entendre. » James n'hésita pas.
« Parlez. Je vous écoute. »
Holmes lui rapporta succinctement la conversation du cimetière et expliqua l'accord qu'il avait passé avec Henry Adams.
« Vous ne savez même pas sur quoi porte l'énigme ?»
protesta James, à la fois surpris que Holmes ait accepté un tel marché et soulagé à l'idée qu'il allait bientôt laisser son ami en paix. « En effet. »
« Avez-vous interrogé Adams ? Ne vous a-t-il vraiment donné aucun indice ?»«
Aucun. Je ne sais même pas s'il y a réellement un mystère à démêler. »
« Qu'en pensez-vous ? Vous le connaissez mieux que moi.
Je n'ai pour le juger que ce que Ned et vous m'en avez dit, et les impressions que j'ai formées lors du dîner d'hier et de notre excursion d'aujourd'hui. »
James prit le temps de la réflexion, ses pensées rythmées par le claquement des sabots et interrompues par un nouvel « à droite » lancé par Holmes au cocher. Il traversait des quartiers washingtoniens typiques, de belles demeures au milieu des arbres, quelques rares commerces, puis des champs et de nouveau des îlots verdoyants élégamment construits.
« Je pense qu'il vous dit la vérité, » finit par répondre James. « Il y a certainement un mystère. Adams est, disons, joueur, surtout quand il est en compagnie de Hay, de Clarence King et de Sam Clemens. » Il protège sa vie privée avec la férocité d'un dragon, cependant. Et s'il n'y avait pas d'énigme à résoudre, il ne vous aurait pas proposé ce jeu absurde. Il se serait contenté de vous ordonner de le laisser tranquille et de ne plus importuner ses amis.
Holmes, qui l'écoutait en lissant d'un geste machinal ses gants noirs, hocha la tête.
Mais vous n'avez aucune idée de la nature de ce mystère, James.
« Je ne vois rien, à part la raison qui vous amène ici, à savoir la mort de sa femme. » J'admets que depuis 10 ans, mes contacts avec lui n'ont été qu'épistolaires, mis à part les quelques visites qu'il m'a faites à Londres et nos rares rencontres sur le continent européen.
« Je suis convaincu que ce mystère concerne Washington, » reprit Holmes, « et qu'il ne s'agit pas d'une anecdote curieuse qui aurait croisé son chemin à Londres ou ailleurs.
Allez-vous réussir à deviner de quoi il s'agit ?»
Holmes frappa sa paume avec ses gants en fronçant les sourcils.
« Je ne devine jamais, James. Je déduis. »
« Eh bien, avez-vous déjà résolu une affaire de ce genre ?»«
C'est-à-dire ?»«
C'est-à-dire un cas où l'on vous demande de résoudre un mystère, mais sans que vous en connaissiez la nature ?»«
D'une certaine façon, oui. On vient souvent me consulter pour de simples faits curieux. » Pourquoi un père a demandé à sa fille adulte de changer de chambre après que des bruits l'ont dérangé dans la nuit, ce genre de choses. Et je découvre que ce détail intrigant n'est qu'une partie d'un véritable mystère. Mais on ne m'a jamais chargé de résoudre une énigme sans la nommer, sans le moindre fil à suivre. Et en seulement 24 heures.
Il jeta un coup d'œil au ciel qui s'assombrissait.
Moi-même, à présent.
Arrêtez-vous ici, cocher, ajouta-t-il en frappant le siège surélevé du bout de sa canne.
James regarda autour de lui dans la pénombre, mais ne reconnut pas les lieux.
« Voici qui vous paiera pour nous attendre aussi longtemps que nécessaire, » dit Holmes au cocher en lui donnant beaucoup trop de pièces d'or de l'avis de James. Semblant satisfait, le cocher porta la main à son haut-forme en poil de castor.
« Venez, James, » commanda Holmes en ouvrant la marche.
Il tourna dans une petite rue qui donnait dans l'avenue où il s'était arrêté. Ce ne fut qu'en voyant l'arche de fer forgé à 20 mètres devant eux, sur la gauche, que Henry James comprit qu'ils étaient de retour au cimetière de Rock Creek.
Vous pensez donc que votre mystère se trouve ici ?
Demanda James alors qu'il prenait une allée pavée qui s'enfonçait dans l'immense cimetière.
Pas nécessairement, mais si nous voulons marcher tout en réfléchissant au problème, cet endroit paisible s'y prête bien.
Mais il va bientôt faire nuit.
En effet, le soleil arrivait au bout de sa course. On apercevait entre les arbres le disque rouge posé sur l'horizon qui n'éclairait plus qu'à peine les stèles et les monuments. Les ombres des arbres ne s'allongeaient plus. Elles se rejoignaient et formaient des nappes d'obscurité. Il ferait bientôt trop sombre pour lire les noms gravés dans la pierre.
« J'ai apporté une lanterne sourde », indiqua Holmes en levant son sac de voyage.
Il s'occupa ensuite d'allumer sa pipe. En temps normal, Henry James aimait les odeurs de pipe, mais le tabac de Holmes était de qualité si médiocre et sentait si fort qu'il se déplaça pour se mettre hors d'atteinte de la fumée.
« James, vous souvenez-vous si hier soir, au cours de la conversation, M. Adams a fait allusion à une énigme quelconque ? »
Je dois admettre que l'attitude de M. Roosevelt m'a empêché de prêter attention à une partie de ce qui s'est dit.
Holmes s'arrêta en scrutant l'écrivain à travers un nuage de fumée.
Rien ne vous échappe jamais, James. Nous le savons parfaitement tous les deux.
James ne répondit pas et ils reprirent leur promenade. Le soleil avait disparu et les volumes s'effaçaient, estompés par un doux crépuscule. Les arbres, les sépultures, les pierres tombales, les petits monts herbus semblaient aplatis, ayant perdu leur contraste et leur rehaut de lumière.
« Il y a bien eu le mystère de la pénurie de fuligules, » dit James. « Mais c'est Clara Hay qui a introduit le sujet du canard quand elle nous a expliqué que nous aurions de la sarcelle, et c'est son mari qui a souligné que les fuligules avaient étrangement disparu de la carte des restaurants et des étals de boucher. »
Et Henry Adams a résolu le mystère en disant que les Juifs avaient tout manigancé, tout comme ils tirent les ficelles de tant d'autres complots démoniaques.
Le ton ironique de Holmes n'échappa pas à James qui voulut défendre son ami. Il précisa que c'était un grand humaniste qui n'avait qu'un préjugé assez incompréhensible contre les Juifs. Holmes l'interrompit en brandissant sa canne.
Peu importe, James. Beaucoup d'Anglais sont comme lui et n'aiment pas les Juifs par principe. Mais ici, bien sûr, cette haine est noyée par celle plus violente encore, qui pousse à traiter plus de 8 millions de Noirs en citoyens de seconde zone et même à leur nier le statut d'être humain.
James faillit protester en arguant, pas ici dans le Nord, mais il se souvint qu'ils étaient à Washington et que cette ville n'avait jamais vraiment fait partie du Nord. Il eut soudain le souvenir très vif et presque douloureux de cette belle journée de printemps. Le 23 mai 1863, où il avait refusé d'aller voir son frère Wilkie défiler dans Beacon Street avec son régiment, le célèbre 54e régiment d'infanterie du Massachusetts, composé d'hommes noirs sous le commandement du jeune colonel Shaw, bien entendu blanc comme tous les autres officiers. Henry James perdait alors son temps à Harvard où il suivait en dilettante des cours de droit et lisait des romans. Mais ce jour-là, les cours avaient été annulés pour permettre aux étudiants d'aller acclamer les régiments du Massachusetts sur le départ. James était resté dans sa chambre avec ses livres. Il avait découvert plus tard que son frère aîné, William, lui aussi étudiant à Harvard, avait fait de même. James était sûr que William ne saurait pas expliquer mieux que lui pourquoi il ne s'était pas joint à leur famille, leurs amis, qui s'étaient mêlés à la foule attendant le passage des troupes. James eut honte d'avoir exploité les blessures de ses frères Wilkie et Bob pour clouer le bec à Theodore Roosevelt la veille au soir. Wilkie avait souffert le martyr sur son lit de camp souillé de terre et de sang, laissé au pied de l'escalier parce qu'on n'osait pas le déplacer. Le courage dont son frère avait fait preuve en repartant servir dans son régiment après sa guérison avait eu une profonde influence sur l'écrivain. Il regrettait amèrement d'avoir exploité sa souffrance. Il savait pourtant que s'il devait revivre ce 23 mai 1863, il n'irait toujours pas à Beacon Street voir défiler le régiment de Wilkie, la troupe virile des jeunes soldats, la fleur au fusil, qui se dirigeait vers la gare pour partir à la guerre. James fut tiré de ses pensées par le choc du bout ferré de la canne de Holmes sur le pavé.
« Nous pouvons supposer que, si Adams joue le jeu honnêtement, comme vous le pensez, le mystère dont il parle a un rapport avec quelque chose dont il nous a parlé aujourd'hui plutôt que dans les conversations d'hier. »«
Probablement, » dit James, se sentant soudain très las. Mais rappelez-vous que j'ai manqué plusieurs minutes de vos échanges au monument de Clover quand je vous ai laissé pour aller faire quelques pas.
C'est vrai.
Holmes sortit de l'allée pour couper par la pelouse. Ils arrivaient au bouquet d'arbres et à la haie qui entourait le mausolée de Clover.
Vous pensez que le monument pourrait nous donner un indice ?
Interrogea James.
Je pense surtout qu'il y a un banc où je pourrais m'asseoir et fumer ma pipe en réfléchissant.
Ils approchèrent de la sépulture par l'arrière en silence. Alors qu'ils atteignaient le bloc de granit, Holmes remarqua
« C'est bizarre. Adams nous a dit que ce côté-ci était le plus important du monument. »
Il toucha délicatement le bloc de pierre avec sa canne.
« Pas si bizarre. La sculpture de Saint-Gaudens est grandiose, certes, mais ce sont les deux alliances gravées sur cette face de la stèle qui en sont le plus fort symbole. »
Il dut se dresser sur la pointe des pieds pour toucher le bas-relief des anneaux entrelacés.
La puissance de leur mariage, c'est bien la vraie signification de ce monument funéraire.
Oui, bien sûr,
approuva Holmes en appuyant sa canne sur son épaule, les yeux rivés sur l'énorme stèle sombre. James crut percevoir au ton du détective qu'il n'était pas totalement convaincu. Holmes le précéda dans les trois passages de la haie. La plateforme hexagonale délimitée par les bancs, la stèle et la sculpture était plongée dans une épaisse pénombre. Holmes alla s'asseoir sur le banc face à la sépulture, posa son lourd sac de voyage sur le banc, sa canne à côté, et croisa les jambes tout en rallumant sa pipe.
« Que s'est-il passé quand je vous ai laissé seul cet après-midi ?» demanda James.
Entre deux bouffées, Holmes l'éclaira. Je lui ai montré une photo de l'actrice et cantatrice Irene Adler, qui, j'en suis convaincu, est la femme qui est entrée dans l'intimité de Clover sous le nom de Rebecca Lorne au cours des derniers mois de sa vie. Adams m'a dit qu'il n'était pas sûr que ce soit la même femme. Il m'a demandé d'abandonner mon enquête. J'ai expliqué que je m'étais engagé vis-à-vis de mon client. Sur quoi Adams a poussé un juron, puis il a juré, s'exclama James sans cacher sa surprise. Ce n'était pas dans les habitudes de Henry Adams. Oui, il a juré, confirma Holmes. Puis il m'a expliqué que malgré l'affection qu'il portait à Ned, il le savait atteint par la maladie mentale familiale. Il voulait ainsi me faire comprendre que je m'étais lancé dans une mission inventée par un fou, que Ned avait tapé lui-même les messages et les avait distribués aux 5 de cœur tous les 6 décembre.
Il avait des preuves.
James avait envisagé cette possibilité et considérait que c'était l'hypothèse la plus plausible.
Non, rien n'était cette idée. C'est simplement sa conviction personnelle. Et c'est tout.
Holmes écarta les mains et James eut l'impression de voir des colombes blanches s'envoler dans les ténèbres.
Presque tout.
Il m'a ensuite lancé le défi que vous savez, et vous êtes revenu.
Je n'ai pas vraiment l'impression que...
Silence ! S'exclama Holmes. James crut que Holmes avait entendu venir quelqu'un et eut peur de se retrouver face à Henry Adams. Ne voyant personne passer les trois passages dans le feuillage, il comprit que Holmes ne l'avait fait taire que pour mieux réfléchir. James contempla la sculpture, et bien que cela soit impossible car elle était plus basse que la stèle de marbre et que les arbres derrière elle, la forme voilée lui sembla luire d'une sorte de lumière dans l'enclos sombre. Holmes réfléchit encore en fumant pendant une vingtaine de minutes. S'il appréciait le calme, James commençait à s'inquiéter de l'obscurité, et il sursauta quand Holmes prit la parole d'une voix sonore.
Je suis souvent venu m'asseoir ici pour observer les visiteurs qui découvrent la sculpture et les écouter sans que l'on m'entende et sans que l'on me voie. Les commentaires recouvrent tout le spectre imaginable, des plus intéressants aux plus cruellement puérils.
Pardon, je croyais que vous étiez venu ici pour la première fois aujourd'hui.
C'est bien le cas. Je vous répète seulement les paroles qu'Adams a prononcées cet après-midi devant nous.
En effet, approuva James qui était doué d'une excellente mémoire. C'était précisément ces mots.
Je suis souvent venu m'asseoir ici pour observer les visiteurs et les écouter sans que l'on m'entende et sans que l'on me voie, répéta Holmes. Le détective ouvrit les bras pour englober les trois bancs qui formaient la moitié de l'hexagone. Où peut-il s'asseoir pour écouter sans être vu, James ?
J'ai compris qu'il observait simplement les gens sans attirer l'attention sur lui, et qu'il entendait leurs remarques en leur prêtant une oreille indiscrète.
J'ai pensé cela moi aussi, dit Holmes en se levant, mais vous savez mieux que moi à quel point Henry Adams pèse ses mots. Il ne s'est pas exprimé à la légère. Je suis venu m'asseoir ici pour observer les visiteurs et les écouter sans que l'on m'entende et sans que l'on me voie. Il y a un endroit tout proche d'où l'on doit pouvoir écouter les gens en restant hors de vue.
Sûrement pas ici, pas sur les bancs.
Non, cela doit être à l'extérieur de cet espace. Vous souvenez-vous d'avoir vu un banc à l'extérieur de cet enclos, assez proche pour entendre les voix et voir ceux qui viennent s'asseoir ici?
Je n'ai rien remarqué de particulier quand je me suis promené tout à l'heure, mais évidemment je ne cherchais pas de banc et j'avais l'esprit occupé ailleurs.
Alors explorons. À deux, cela sera plus rapide.
La nuit est trop épaisse pour que nous puissions vérifier si les bancs de l'enclos sont visibles d'un peu plus loin.
Holmes fit tomber les dernières cendres du fourneau de sa pipe et la rangea dans une poche de son manteau à pèlerine.
Précisément, mais nous aurons un fanal.
Il sortit la lanterne sourde de son sac, la plaça en équilibre sur l'accoudoir ailé à l'extrémité gauche du banc, l'alluma et ouvrit le volet. La lanterne jeta sa lumière vers le passage dans la haie. Laissant son sac et la lanterne, Holmes prit les devants pour sortir de l'enclos. Au dehors, il faisait beaucoup moins sombre. Le crépuscule printanier grisaillait seulement le ciel, même si une ou deux étoiles brillaient déjà.
Adams peut parfaitement s'asseoir sur l'herbe n'importe où,
objecta James, indiquant avec le bras la pelouse vallonnée.
Imaginez-vous vraiment notre ami Adams s'asseyant à même la pelouse dans un cimetière ? S'amusa Holmes.
James fit non de la tête.
Un banc ou une sépulture alors ? Sûrement de ce côté-ci, parce que c'est le seul passage possible dans la haie qui permette de regarder dans l'enclos.
D'un mouvement de canne, Holmes indiqua à James d'aller à droite, tout en se dirigeant lui-même vers la gauche. Ils procédèrent méthodiquement, étudiant les monuments et cherchant un banc.
Au bout de quelques minutes, James s'écria « Ici ! Il y a une pierre plate sur laquelle on pourrait s'asseoir !»
Holmes le rejoignit. Des chauves-souris filaient au-dessus de leur tête, et des hirondelles virevoltaient dans le ciel du soir.
« Cette pierre tombale est assez large et haute pour offrir un siège tout à fait acceptable, » déclara James en y posant la main.
« Alors, pourquoi ne l'essayez-vous pas ?»
Détectant un sarcasme, James fronça les sourcils.
« Tout de même, ça me gêne. C'est une pierre tombale après tout. »
« Exactement. Et nous pouvons considérer qu'Adams réagirait comme vous. »
M a raconté qu'Adams venait si souvent dans ce cimetière qu'il l'appelait sa deuxième maison.
Holmes hocha la tête tout en méditant.
D'ici, on ne verrait pas bien les visiteurs qui entrent dans l'enclos et qui s'assoient sur les bancs.
James suivit son regard. Le détective avait raison. Seul un mince filet de lumière émanant de la lanterne était visible à travers les trois passages et la plateforme était pratiquement invisible.
Nous sommes de surcroît bien à 60 pas de l'hexagone et la haie doit amortir les sons. On ne pourrait pas entendre des commentaires prononcés d'un ton ordinaire.
Alors je ne...
commença James.
Les arbres et la haie !
S'exclama Holmes. Il retourna à l'enclos presque en courant. Ils firent le tour du périmètre extérieur ensemble.
Si je comprends bien, nous cherchons une sorte d'abri de chasse,
murmura James sans vraiment savoir pourquoi il parlait bas.
Oui. « Je pense en effet à un abri dissimulé dans le feuillage », confirma Holmes en fouillant la haie du bout de sa canne.
« Une planque, en langage criminel. »
« Mais même si nous trouvons où il s'installe pour guetter les gens, nous n'aurons toujours pas répondu à la question la plus importante. »«
Qui y est ?» demanda Holmes en plongeant les bras dans la végétation.
« Eh bien, nous ne savons pas si nous chassons la sarcelle ou la fuligule. »
Ils achevèrent leur inspection en silence. Cette fouille systématique ne leur apprit rien. Les arbres étaient des arbres, les buissons de simples buissons. On ne pouvait se dissimuler nulle part dans la haie, à moins d'y pénétrer en forçant un passage, ce qui, connaissant Adams, n'était guère plausible. Ils retournèrent au banc où ils avaient laissé la lanterne. Holmes descendit le volet pour éviter que la lumière ne les éblouisse et ne perturbe leur vision nocturne. Mais au lieu de se rasseoir, il resta debout et se perdit dans ses pensées.
Contraint de patienter une fois de plus, James se demanda si le docteur Watson passait aussi la moitié de son temps à attendre que Holmes émerge de ses profondes réflexions.
« Bon sang, mais c'est bien sûr !» s'exclama Holmes en claquant des doigts. « Ça crève les yeux !»
Il leva la lanterne, ouvrit le volet et approcha de la sculpture pour l'éclairer d'abord d'un côté puis de l'autre, tout prêt pour commencer, puis de plus loin. James ne le suivit pas. La sombre statue de Saint-Gaudens l'avait mis bien assez mal à l'aise en plein jour. À la lueur de la lanterne, elle était terrorisante.
« Venez !»
appela Holmes qui revint à grands pas pour récupérer son sac. Il baissa le volet de la lanterne pour ne laisser passer qu'un ray de lumière.
« Nous rentrons ?» demanda James.
« Non, nous allons visiter la cachette de Henry Adams. »